Quelle honte pour eux, mais c'est une honte.
Il y a plein de manières de faire de la restauration et il y a la manière Michelin, on va dire.
Pour avoir une étoile, à un moment donné, il faut avoir bossé fort avant et puis il faut avoir fait surtout beaucoup de sacrifices.
Bonjour, je suis Yves Pulici, et si je n'avais pas été journaliste, je serais peut-être cuisinier. J'ai toujours été fasciné par la transformation des aliments en plats, aux nuances de goût, à la rigueur que je voyais dans les reportages dans les grands restaurants. Aujourd'hui, à quelques jours de la cérémonie de remise des étoiles du guide Michelin, je me suis demandé pourquoi je n'étais jamais finalement allé manger dans un restaurant étoilé. Mes étoiles, je les découvre sur Instagram, je lis les avis sur Internet, mais je n'ai jamais ouvert cet épais livre rouge. Qu'est-ce qu'il s'y cache ? À l'origine, le Michelin, c'est pour conseiller les chauffeurs au début du siècle et de l'automobile. Le Michelin décerne sa première étoile en 1926. Puis dans les années 30, les doubles et triples étoiles, le guide devient gastronomique et LA référence. Des centaines de milliers de guides rouges sont achetés chaque année, jusqu'à 800 000 pour ses 100 ans. Mais aujourd'hui, le nombre de ventes a chuté. Seulement quelques dizaines de milliers de livres sont achetés chaque année. Mais qui lit encore le Michelin ? Le guide rouge a-t-il perdu de sa superbe ? Les chefs gastronomiques peuvent-ils s'en passer ? Ce sont les questions que nous nous sommes posées avec Marie Ramoget, avec qui je réalise cette série, et un documentaire à découvrir en vidéo. Nous sommes partis à la rencontre de chefs et de chefs, étoilés ou non, pour qui le guide est une référence et pour qui ce guide n'est plus celui d'autrefois. Le guide Michelin a refusé de répondre à nos questions. 3 fois 3 étoiles Michelin, 2 fois 20 sur 20 Goemio. Voilà ce qui est écrit sur la devanture du restaurant de Marc Vera.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez quoi, un café ?
Tu sais que j'ai eu peur, là, les deux personnes qui étaient là. Je savais pas qui c'était. Je me suis dit, c'est peut-être des inspecteurs du Michelin.
Merci, là.
Bah, je sais pas qui c'est, donc... Hein
Mais des inspecteurs du Michelin, qu'est-ce qu'ils viendraient faire ici ?
Je ne sais pas. Ça faut demander au chef.
Ça fait des spectacles. Hein.
Chez Christine et Marc Vera, on est anti-Michelin.
Ils viendront jamais parce que vous avez vu, j'ai le panneau à l'entrée là.
Une ardoise sur le comptoir appelle ses membres les fossoyeurs de la gastronomie française. Leur restaurant à Megève est un chalet en bois, avec une grande cheminée au centre, des plantes sauvages en décoration et une cuisine ouverte au milieu. La colère du chef remonte à 2019. Triplement étoilé, le guide Michelin rétrograde Marc Vera à 2 étoiles. Pour lui, l'objectif du Michelin, c'est de faire le buzz en retirant une 3e étoile à un grand chef, comme cette année, 2025, à Georges Blanc.
Mais ce sont des incompétents. Écoutez, moi j'ai l'enregistrement, là, sur mon iPhone, quand je suis allé les voir. Vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit, vos pâtes disparaissantes ne sont plus pareilles. J'ai dit, ah bon, pourquoi ? Moi qui défends le patrimoine local, le fromage local, vous savez ce qu'ils me disent ? Quelle honte pour eux, mais c'est une honte. Ils devraient aller se cacher. Les pâtes, vous avez transformé les pâtes, c'est plus du reblochon, vous avez mis du cheddar. Parce que dans le reblochon, je mettais effectivement du safran. Le reblochon est jaune. Ils ont confondu avec le cheddar. Ce sont des connaisseurs, ça ? Non, mais attendez, mais c'est affligeant. Moi, j'ai honte pour eux. Ils ont confondu la coquille Saint-Jacques contre avec le foie de l'autre. Deux choses qu'ils nous ont reprochées. Votre coquille Saint-Jacques, elle n'était pas ferme. Et je dis, mais c'était pas une coquille Saint-Jacques, j'ai appelé ça la Saint-Jacques du lac. Vous avez déjà vu des Saint-Jacques dans un lac ? C'est un jeu de mots. C'était du foie de l'autre que j'avais découpé rond. Ils l'ont pris pour une Saint-Jacques. Les cuisiniers tremblent. Un mois avant, ils font attention, le guide Michelin va venir. Ils sont, mais vous vous rendez compte ? Et des gens qui ont 40 ans de métier, 50 ans de métier. Mais on peut leur dire, mais messieurs, le CP, c'est votre tour d'y aller. C'est plus à notre tour. On a passé le CP. Mais attendez, mais si les étoilés veulent vous dire la vérité... On tremble, on dort pas un mois avant. Mais bien sûr que non, avant le guide Michelin. Mais c'est du harcèlement moral. Mais bien sûr que oui. En tous les cas, si mes collègues l'ont pas fait, moi je le fais. Et je n'ai pas peur de le dire. Et je suis sûr qu'ils sont comme moi, même s'ils n'osent pas vous le dire. J'ai donné toute ma vie, moi, pour ce métier.
L'une des premières critiques que l'on entend dans les restaurants gastronomiques, c'est la pression imposée par le guide Michelin.
J'ai fait de la dépression, j'ai été hospitalisé. Pour moi, c'était une offense. Mais terrible, terrible. Ils ne s'imaginent pas, ces gens-là. Mais de quel droit ces gens se prennent pour des juges ? Mais c'est un harcèlement moral perpétuel. C'est une perversité incroyable, ce qui m'est arrivé. Hein. Je suis très offensé. C'est de toucher à ces 3 étoiles qui ont marqué l'identité de la France pendant des décennies. Je crois qu'effectivement, tous ces gens... On n'a pas le droit de les toucher, de les destituer. Mais ces gens du Michelin ne savent pas le travail qu'ils ont fait, ce qu'ils ont représenté pour la France. C'est un des derniers bastions qui nous reste, l'identité culinaire à la française. Est-ce que vous vous rendez compte l'offense qu'ils font à ces gens-là? Mais moralement, il est touché. C'est obligatoire. Parce que c'est un homme de cœur, c'est un homme d'honneur. Ce sont des gens d'honneur, plus d'honneur que le guide Michelin. Voilà la différence. Nous sommes des gens d'honneur.
Hop là. Et comme ça, j'ai mon petit poule pas tout vidé. Alors déjà, je pense que le guide Michelin n'est pas du tout prêt à avoir des restaurateurs comme moi, enfin des restauratrices comme moi avec un modèle un peu bizarre.
Vous connaissez peut-être Chloé Charles, chef participante à Top Chef, chef itinérante. Elle ouvre Lago en 2022. Ce n'est pas un restaurant, c'est un lieu à privatiser dans le 11e arrondissement de Paris. On entre en face d'une cuisine ouverte, une grande salle derrière avec une fresque colorée au fond. On est comme dans un appartement.
Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, tout le monde me disait genre « Ah, mais on comprend rien, t'as pas de restaurant, tu fais des trucs bizarres à droite à gauche. » Et aujourd'hui, tout le monde a compris ce que c'était qu'un chef itinérant. Après, une étoile, moi, ça m'a jamais plus amusé que ça. Enfin, c'est énormément de pression. Enfin, moi, j'aurais pas du tout envie de vivre comme ça aussi. C'est-à-dire que c'est énormément de pression, c'est être complètement dévoué à son métier. Quand on a vu ce qui s'est passé en 2020, au moment du confinement, avec des chefs qui avaient 3 étoiles, je sais pas d'ailleurs combien ils avaient d'étoiles, mais qui disaient genre « Ah, j'ai découvert mes enfants de 12 et 14 ans ». Enfin, moi, je me souviens avoir lu un article comme ça, j'étais genre « Mais moi, j'ai pas du tout envie de découvrir mes enfants de 12 et 14 ans, quoi ». Enfin, je veux dire, j'ai pas fait des enfants pour me rendre compte qu'ils aimaient, j'aimais jouer au foot à 14 ans, quoi. Pour avoir travaillé dans le milieu de la gastronomie, que c'était pas parce qu'on avait une étoile qu'on faisait la meilleure cuisine et qu'on travaillait avec les meilleurs produits, en fait, donc... Enfin, une étoile ou deux ou trois même. D'une certaine manière, entre guillemets, très gros guillemets, je ne comprends pas les chefs qui passent leur temps à chercher l'étoile parce que c'est vraiment pas leur truc. Mais si c'est ça qui les rend heureux, tant que pour y arriver, ils martyrisent pas leur personnel, moi, tout me va bien, quoi.
Alors, comment sont jugés les restaurants par les inspecteurs, les inspectrices du guide ? Sur leur site, 5 critères sont listés. La qualité des produits, l'harmonie des saveurs, la maîtrise des techniques, la personnalité du chef telle qu'elle s'exprime dans sa cuisine et la régularité dans le temps et la cohérence de la carte dans son ensemble. Et pour Chloé, l'application de ces critères manque de transparence.
Oui, d'une certaine manière, les étoiles sont opaques. Comme on ne sait pas comment elles sont décernées, ni comment elles sont enlevées, enfin, moi, j'ai déjà mangé dans des restaurants étoilés où je me demandais pourquoi il y avait une étoile. Et comme j'ai déjà mangé dans des restaurants qui n'avaient pas d'étoile, en me disant, genre, c'est quand même dingue que depuis 5 ans, ce chef-là, il rêve d'avoir une étoile, il ne l'a pas, alors que l'autre restaurant dans lequel je suis allé, ça casse vraiment pas trois pattes à un canard, voire même, c'est pas très bon. Après, ils entretiennent le mystère et voilà. Mais ça, je veux dire, tout le monde est d'accord dans la restauration. Enfin, surtout dans le milieu des chefs, un peu, des chefs gastronomiques, tout le monde râle et tout le monde regarde tous les ans la cérémonie, enfin pas la cérémonie, mais tout le monde regarde le palmarès tous les ans pour savoir ce qui s'est passé. Et comme ça, après, tout le monde peut bitcher sur ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé. Et voilà, c'est un peu le petit truc qui fait parler. Et voilà. On part du principe qu'à partir du moment où on fait de la cuisine comme métier, notre objectif, c'est d'avoir une étoile au guide Michelin. Mais pas du tout. Pour avoir bossé plusieurs années dans des restaurants étoilés, si je voulais une étoile au guide Michelin, en tout cas, j'ai appris et intégré tous les codes dans mon apprentissage de la cuisine qui a duré 12 ans. Juste, j'ai pas envie, quoi. Enfin, je sais exactement ce qu'il faudrait faire, quels produits il faudrait servir, quel style de service il faudrait donner. Enfin, les étoiles Michelin, c'est aussi un style de restauration, c'est pas forcément la restauration. Il y a plein de manières de faire de la restauration et il y a la manière Michelin, on va dire. Alors, on va dire qu'elle est old school, donc ça rejoint l'obsolète regard des compagnies. Le old school peut revenir à la mode. Après, tout dépend de la manière dont c'est fait. C'est-à-dire qu'une fois par an, aller me faire un étoilé avec tout le service qui va avec, genre me réjouir de pouvoir y aller, d'aller découvrir la cuisine d'un chef ou d'une chef qui mette des souvenirs pour toute ma vie. J'en ai prévu un pour nos 6 ans de mariage avec ma femme en mai. Enfin, je me réjouis pendant 5 mois, en fait, à l'idée d'aller dans ce restaurant-là parce que je vais aller chercher un certain style de restauration, de gastronomie et compagnie. Enfin, j'ai pas envie que ça soit ma restauration du quotidien. Les restaurants dans lesquels je m'amuse aujourd'hui et dans lesquels j'ai envie d'aller au quotidien, c'est pas des restaurants étoilés. C'est plutôt des bistrots sympas avec des gérants adorables dans lesquels il y a une bonne ambiance, où je suis sûr que je vais avoir des bons produits avec des prix abordables.
Qu'est-ce qu'on a ? On a un feuille à feuille autour de l'artichaut de Jérusalem, donc c'est le topinambour, et une farce fine de volaille. qui est servi avec une salade d'hiver et un petit jus. On peut agrémenter de truffes si on le souhaite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a
les maquereaux
qui sont grillés à la flamme avec une sauce teriyaki maison. On fait un travail autour de la pomme, cidre, jus de pomme de Savoie, calvados.
Là, Alix Martinez et Sylvestre Paulus, gérantes et gérant et chef de cuisine à l'hôtel-restaurant La Chartreuse, au reposoir, c'est entre Annecy et Chamonix, au pied du col de la Colombière. On est en Haute-Savoie et ils nous dévoilent le menu qui change chaque
semaine. Toujours une cuisine assez simple, mais il y a toujours un petit twist, quelque chose qu'on... Voilà, c'est ça un peu original. On aime bien importer, et puis bah, les gens aiment bien ça, donc voilà, c'est cool.
Ils ont reçu un prix du Michelin, ce n'est pas une étoile, c'est un bib gourmand. C'est un prix gastronomique pour les petits budgets, et on en reparlera dans cette série. Alix et Sylvestre connaissent bien les étoilés, ils y ont fait une partie de leur carrière. En reprenant ce chalet, la Chartreuse, il y a 2 ans, ce n'était plus du tout leur objectif d'avoir une étoile.
Déjà, on n'a pas la prétention de se dire qu'on veut une étoile Michelin. Et après, ça englobe beaucoup d'autres choses, quoi. Comme le personnel, déjà. Il faut avoir du monde, il faut avoir une stabilité déjà là-dessus, qu'on n'a pas du tout et pas forcément tout le temps. Et puis après, on est dans un village avec lequel on veut travailler à l'année, donc ce n'est pas l'objectif final du tout.
Ça, le but, c'était de garder la clientèle locale qui n'a pas forcément les moyens de se payer un étoilé, même si on peut être étoilé et avoir des prix raisonnables, bien sûr. Là, déjà, on est autour d'une 40aine d'euros. Ce n'est pas à la portée des bourses de tout le monde, ça, c'est sûr et certain. Donc, proposer une cuisine qui change tous les mois aussi, c'est ça. Donc, se faire plaisir en fait en faisant plaisir aux gens, ça, c'est sûr et certain. On travaille énormément sur les produits de saison. On n'a pas forcément une cuisine très identitaire et très marquée, disons, avec des plats signatures. On change tout le temps, on se renouvelle tout le temps. Pour l'équipe, c'est génial. On n'a pas le temps de s'ennuyer. On travaille plein de produits, au maximum local. Donc voilà. On se met exactement la même chose en pression ici, au niveau de ce que l'on sort, je veux dire, au niveau régularité, dressage. Parce que certains chefs ont eu une étoile ou 2 étoiles grâce à un plat, ne fait plus que ce plat-là, et du coup, oublie ce que c'est pour moi personnellement la cuisine, c'est-à-dire changer, travailler énormément la saison.
Après, en tant qu'employeur et employé, on n'a pas non plus la même pression, que ce soit dans un étoilé ou chez nous. Nous, on a à peu près la même pression là, en ce moment, ça c'est sûr, en faisant une cuisine de bib gourmand. Mais c'est sûr que dans les dernières maisons, on était très investis tout ça, mais... Ça n'a rien à voir, c'est le chef et les gérants qui ont la pression maximale là-dessus.
Ça fait un peu rêver, oui, évidemment. Nous, on est du métier depuis notre jeunesse, on a fait ça dès le début. C'est une institution.
Oui, c'est ça. Peut-être.
Alors, Maxime Boutier, chef du restaurant et fondateur du restaurant Géosmine, Paris 11e. L'établissement a un petit peu moins de 2 ans, on a ouvert le 1er avril 2023. Une étoile au guide Michelin un petit peu avant 1 an d'ouverture, donc en mars 24. On a eu un prix terroir d'exception au Goemio, pareil, première année d'ouverture en 24. 2 tocs au Goemio et puis beaucoup d'autres guides, voilà, mais sur les principaux, voilà le palmarès. Il y a une chose qui est pas si simple, c'est qu'on nous appelle pour nous dire qu'on est invité à la cérémonie, mais il n'y a pas de verbalisation du mot étoile, quoi. Donc on se doute que si on est invité, c'est pas pour faire des photos. Mais en tout cas, on nous dit pas, voilà, vous avez une étoile. En tout cas, moi, on me l'a pas dit. On m'a dit, vous êtes invité à la cérémonie dans une semaine. Bon, au début, on réalise pas trop. Moi, j'étais en repos, donc on m'a appelé à la maison. J'allais aller prendre une douche, pour tout dire. Et après, par contre, je me suis pas senti bien. Enfin, je sais pas. En fait, c'est comme une pression qui retombe qu'on n'a pas eu, par exemple, quand on a ouvert le restaurant. Tout ça, on l'a jamais eu. Enfin, moi, je l'ai jamais eu. Quand je l'ai su pour l'étoile, j'ai mis une bonne heure à réaliser, à me rendre compte. Et après, ça m'a vraiment touché, quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai vomi. Enfin, ça m'a vraiment mis mal. Dans le bon sens, hein, mais ça m'a retourné. Parce que ouais, j'ai fait 17 ans de gastronomie, 17 ans d'étoilé, que j'ai jamais manqué une cérémonie du Michelin à la télé, parce que même quand on était en cuisine, on mettait un téléphone. Je veux dire, ça faisait partie des choses qu'on a toujours fait dans des grosses maisons, pour voir les restaurants qui étaient étoilés, si nous on conservait, si on en gagnait une nouvelle. Donc j'ai fait beaucoup de restaurants où on avait gagné des étoiles, mais sans être patron. Et là, c'était enfin pouvoir y aller, et encore une fois, que tout ça soit compris, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et l'étoile, c'est à ce moment-là qu'elle a été concrète.
La pression qui retombe pour Maxime et qui monte pour ses collègues.
Et puis après, il a fallu aussi faire cette semaine en sachant ça. sans le dire à personne. Et en fait, encore une fois, c'est un faux problème parce qu'il y a des gens qui ont attendu un appel et eux qui étaient vraiment dans un gros stress et qui ne l'ont pas eu. Et il a fallu rien dire pendant une semaine. C'est-à-dire que moi, j'avais des équipes ici qui, tous les jours, me disaient « Mais on vous a appelé ? On vous a appelé ?» Et à un moment donné, qui étaient dépités quand on est arrivé au week-end parce qu'ils savaient que la cérémonie, c'était… Voilà, donc je leur ai dit avant qu'on parte en week-end, c'est-à-dire deux jours avant la cérémonie, mais parce que je voulais quand même qu'ils puissent profiter de cette cérémonie à la télé et tout, donc qu'ils ne fassent pas autre chose ce lundi-là, parce que c'était grâce à eux. Mais il a fallu toute la semaine le faire et puis avoir tous les copains qui attendaient aussi une étoile qui m'appelaient pour me dire « Alors, t'as été appelé ?» À qui il a fallu que je dise non. Et du coup, à qui on donnait l'espoir. Parce qu'en fait, qui se disaient bah, « En fait, pour eux, c'était quasi sûr qu'on en ait une. » Donc, c'était leur baromètre, si vous voulez. Si nous, on n'avait pas été appelés, bah, ils avaient encore le temps d'être appelés. Ouais, ça, c'était pas cool parce que j'avais des vrais copains à qui j'ai pas pu le dire. Et du coup, qui étaient dans l'attente de quelque chose. Ça, c'était pas chouette.
L'étoile, c'est le rêve. Après... parfois et même souvent, des années de cauchemar.
Bah, ça représente l'aboutissement de quelque chose. Je pense que quand même, pour avoir une étoile, à un moment donné, il faut avoir bossé fort avant et puis il faut avoir fait surtout beaucoup de sacrifices dans un métier comme le nôtre. Donc je pense qu'avoir une étoile ou plusieurs, c'est de se dire bah, « j'ai peut-être pas fait tout ça pour rien ». J'ai pu rater des mariages, des enterrements, des naissances, plein de choses parce que j'ai bossé, des fêtes de famille, des Noëls, et se dire bah, « ouais, je l'ai fait, mais moi, je sais pourquoi je l'ai fait ». Et c'est pour ça qu'elle a autant de valeur, en fait, sur ça, et puis sur après, encore une fois, une identité et d'être compris. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ego ou quoi que ce soit, mais c'est pour ça qu'elle a autant de valeur. Et puis parce qu'il n'y en a pas des milliers non plus. L'étoile, on l'a mis le plus loin possible de la porte d'entrée sur la façade. Elle est quasiment à la fin du bâtiment. Elle est très loin parce que je ne voulais pas que le restaurant, ce soit que ça, déjà premièrement. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que quand on est dehors, des fois, on a des gens qui passent devant, ils lisent le menu et ils se disent quand même, c'est pas donné. Et après, ils passent devant l'étoile, ce qui continue la route, et ils disent « Ah ben c'est normal, il y a une étoile !» Alors, voilà, donc ça, c'est assez drôle. Mais surtout, je voulais pas que ce soit que ça pour les gens. Ça, c'est un point très important. Et égoïstement, je voulais pas la voir tous les jours quand j'arrive. Et je voulais pas la voir tous les matins. Parce qu'en fait, en la voyant tous les matins, on se met une pression tous les matins. Elle est accrochée à la façade, on a une étoile parce que je pense qu'on l'a méritée, en tout cas, je l'espère. Et on cuisine comme on a cuisiné avant, et on espère qu'un jour... on nous rappellera pour peut-être une deuxième quand on aura fait ce qu'on veut faire. On y travaille, on ne sait pas pour tout de suite. Mais voilà, je ne voulais pas la voir tous les jours. Et je pense qu'il faut vraiment ouvrir avec ses valeurs. Parce que si vous ouvrez, comme on disait tout à l'heure, en se disant qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une étoile, si un jour vous l'avez, je pense que c'est l'enfer. Parce que vous êtes complètement oublié, vous avez coché des cases pour avoir cette étoile. Et si un jour bah, vous la perdez, vous ne savez plus trop qui vous êtes. Vous voyez, ce qu'on veut aussi demain, on nous l'enlève. Eh bien, j'aurais fait ce que je voulais, comme quand on l'a eu. Donc ça ne me fera pas plaisir, mais je dormirai quand même. Quoi. C'est une pression parce qu'on se dit que les gens qui rentrent maintenant, mine de rien, les gens qui viennent manger à Géosmine maintenant, ils viennent parce qu'il y a une étoile. Ou en tout cas, ils viennent et il y a une étoile. Les gens, quand ils passaient la porte, ils n'avaient pas la même attente. Et donc si nous, on voit cette étoile le matin, eh bien, on est amené à se dire « Attention, les gens, ils viennent parce qu'il y a une étoile. » Et donc pensez qu'à ça, en fait.
La pression de l'étoile est telle parfois que certains restaurants ferment. Cette année, 26 étoilés ont fermé, ont changé d'orientation ou ont été vendus. Pour comprendre aussi ce que représentent une, deux ou trois étoiles, nous avons rencontré Rémi Oyon.
Rémi Oyon, président d'Happy Agnew. Alors nous, on a la chance d'accompagner sur les 3500 établissements qui sont référencés dans le guide Michelin, à peu près 2500 hôteliers et restaurateurs. Et parmi les 680 tables qui sont distinguées d'une, deux ou trois étoiles Michelin, 380 travaillent avec nous, nous confient leur communication pour leur site internet, leur logiciel de coffret cadeau ou leur présence dans les réseaux sociaux.
Pour lui, l'étoile, c'est aussi une source de rentabilité pour les restaurateurs et les restauratrices.
Le mois de la consécration, une visibilité qui est incroyable. Quand on est 3 étoiles Michelin, un établissement, quand il fait à peu près 10 000 visiteurs sur son site internet, il a déjà 2 étoiles souvent, au moment où il a 3 étoiles, eh bien, il fait pratiquement 100 000 connexions, vous imaginez, sur son site internet, le mois de la consécration. Alors, pour bien comprendre, en moyenne, quand vous avez une première étoile au guide Michelin, vous avez à peu près 20 à 30% de plus de chiffre d'affaires. C'est dû à 2 phénomènes. La fréquentation qui augmente et l'ouverture de la gamme du restaurant. Vous voyez, quand on n'a pas d'étoile, on a peut-être des menus à 3, 4 plats. Puis quand on a une étoile, on a des menus à 5 plats, 7 plats. Donc, on augmente un peu son prix moyen parce qu'on on fait son ouverture de gamme. Par contre, quand on la perd, bah, évidemment, il y a d'autres choses qui se passent. Et là, la règle, elle est complètement différente. Quand vous êtes un établissement qui est en campagne, on va être très clair, hein, vous pouvez perdre jusqu'à 30, jusqu'à 50% de votre chiffre d'affaires. Quand vous êtes en ville, vous pouvez perdre entre 20 et 30%. Et ce qui est incroyable, même nous, on a des établissements qui font 15% de plus quand ils perdent l'étoile Michelin. Et là, c'est quoi la différence ? Ben, c'est les établissements, quand ils ont la période de la consécration et qu'ils ont justement affiné leur marque, réfléchi leur ADN, mis en place une expérience, un cérémonial de service, ce sont les maisons qui, parce qu'ils ont une identité, ils continuent à avoir des clients qui leur font confiance. Et puis finalement, les établissements qui sont un peu en retrait et qui pensent que les guides gastronomiques, c'est une marque ombrelle à leur signature de marque, ben eux, malheureusement, c'est ceux qui ont la plus de difficultés. Mais inévitablement, à la fois, quand vous êtes mis en lumière, les médias s'intéressent à vous et donc les consommateurs viennent découvrir la nouvelle expérience. Et puis en même temps, quand vous en perdez une, il y a aussi une mise en avant qui est assez étonnante de la maison parce qu'ils sortent les maisons qui perdent une étoile Michelin une semaine avant la sortie du guide. Et on s'aperçoit que ça fait une telle reprise par la presse que finalement, les clients viennent soutenir la maison. Et donc, nous, on a des maisons qu'on fait plus 15% dès la première année en ayant perdu une étoile Michelin.
Comme Marc Vérac, l'on entendait au début de l'épisode, le chef reçoit encore plus de clients depuis qu'il a perdu son étoile et qu'il est sorti du guide Michelin.
Quand vous avez perdu votre troisième étoile, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait moins de clients ?
Aucun. J'oserais presque vous dire qu'il y en avait plus. Ça fait l'effet inverse. Mais demandez à Guy Savoy s'il a moins de clients. Guy Savoy, il n'a jamais eu autant de clients. Tous les soirs, nous, vous pouvez demander à mes gars, et tous les clients se lèvent et nous applaudissent. Mais ils nous applaudissent de quoi ? J'espère que vous applaudissez contre le Michelin. Mais non, ils applaudissent la cuisine, c'est quand même mieux.
Sortir du guide Michelin, c'est peut-être plus simple économiquement quand on est Marc Vérac. Mais pour certains chefs, c'est beaucoup plus compliqué. Que faire pour remplir son restaurant ? Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons aux chefs qui cherchent d'autres solutions à s'émanciper du guide Michelin. Les réseaux sociaux, les labels, les autres classements. Comment faire sans le guide ? Réponse dans le prochain épisode. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, laissez-nous une note et un commentaire.